Il me semble que c'est notre première talk de 2019, non? Ouais. Ça n'a pas vraiment d'importance, sauf pratique pour savoir, pour se situer. Et comme j'étais malade toute la semaine, j'ai eu beaucoup de temps de méditer, contempler, penser, lire, regarder par ma fenêtre, regarder le soleil, différentes qualités de lumière à différents horaires, à différentes heures, etc. Donc c'est un peu étrange de se trouver ici, en train de parler, après avoir passé beaucoup de temps seul, ce qu'on pourrait appeler une introspection. Et parmi les choses que j'ai lues, que je lis toujours, c'est le livre qui s'appelle Becoming. C'est le livre qui est écrit par Michelle Obama, la femme de Barack, qui est je sais pas comment ça s'appelle, Becoming, on en français aussi. Ça s'appelle comment?
Je sais plus, mais
Devenir ou...
Mais c'est pas je crois pas que ce soit Becoming.
Tu l'as vu? Non.
Je l'ai offert à ma mère.
Ah oui. Et elle l'a lu ou elle le lit?
J'imagine qu'elle doit être en train.
Ah ouais. Moi, je trouve que c'est passionnant. On découvre plein de choses. Et parmi les choses qui m'a frappée, je crois que c'était hier, c'est qu'elle part de la première fois qu'elle va avec celui qui va être son mari, mais pour l'instant, c'est juste. Ils commencent leur relation. Et un soir, il doit remplacer quelqu'un qui fait. Il est étudiant en droit à ce moment-là. Mais auparavant, il avait travaillé comme organisateur de communauté. Community organizer, on dit en français, en anglais, je ne sais pas qui. Organise des gens, des quartiers, peut-être travailleurs sociaux, peut-être un peu comme ça. Et donc, on avait demandé de remplacer quelqu'un qui ne pouvait pas assurer un rendez-vous, une réunion, où il devait, et donc, il a accepté d'y aller, et il amène Michel avec lui. Et donc, c'est la première fois qu'elle le voit dans ce genre de contexte. Et elle était assise au fond et lui, il va devant, c'est dans le sous-sol d'une église dans un quartier défavorisé à Chicago. Et il y a une quinzaine, une vingtaine de femmes de différents âges, plutôt la cinquantaine ou plus âgées. Comme Michelle Obama observe dans ces genres de communautés, c'est des femmes qui assure et qui vient parce que personne d'autre veut venir, donc elles vont venir assurer. Et donc elle raconte que quand il commence à parler, les femmes sont un peu sceptiques, surtout la femme à côté d'elle qui est occupée avec son bébé et qui coûte même pas. Et puis au fur et à mesure qu'il parle, elle-même, elle est très étonnée, elle est bouleversée par l'entendre, ce qu'il dit. Et la chose que je retiens, ce qu'il avait, le message qu'il a transmis à ces femmes et qui les a convaincues dans l'espace d'une heure, il les faisait parler. C'est comme s'il facilitait une discussion de quelles sont leurs doléances, quels sont leurs désirs, quels sont les problèmes dans le quartier, comment, etc. Donc, mais lui, il parlait aussi. Et à un moment, le message qu'il arrive à transmettre, c'est vous pouvez se plaindre et faire votre mieux avec les circonstances telles qu'elles sont, ou vous pouvez les changer, ou travailler pour les changer et la situation. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là, Michelle Obama, que sa famille était plutôt dans le premier cas, c'est-à-dire que ses parents étaient classe populaire, ils n'ont jamais été propriétaires d'une maison, ils ont travaillé dans les boulots qui n'étaient pas très satisfaisants, mais ils voulaient tout donner à leurs enfants, elle et son frère. Ils ont fait leur éducation, ils ont encouragé d'exceller, etc. Et sans s'occuper de la communauté autour, vraiment. C'était « Ok, c'est notre lot, on va faire notre mieux avec ce qui est notre lot. » Et donc les enfants ont fait ça, et les deux enfants, Michel et son frère, sont allés à Princeton, qui est une des meilleures facultés américaines. Après, Michel est allé à Harvard. Ils ont vraiment, c'était vraiment des « overachievers », comme on dit en anglais. Et sans se préoccuper de le reste de la société, ni les circonstances. Ils étaient d'accord que c'était pas bien ce qui se passait à leur quartier, parce que dans l'espace de son enfance, le quartier était à l'origine très mélangé quand elle était en maternelle, à l'école maternelle, et dans l'espace des 5 ans quand elle était en CM2, c'était que noir. Et des gens qui pouvaient envoyer leurs enfants dans les écoles privées ou déménager pour ne pas rester là, etc. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre façon de faire en entendant Barack qui parlait, et que ça avait, les femmes aussi dans la pièce ont compris, et elles sont devenues très enthousiastes, et elle s'est rendue compte que cet homme, il avait quelque chose qui était différent que ce qu'elle avait jamais vu dans ses quartiers. Il y avait des gens qui travaillaient dans le quartier, etc. Elle était copine avec la fille de Jesse Jackson, qui était un grand homme politique noir américain. Mais personne n'avait présenté ça comme ça. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je dis, tiens, ça me parle, ça, cette... que ce n'était pas juste, que c'était beaucoup plus grande que soi, la situation. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus large. C'était une vue panoramique, plutôt, que de juste, moi, mon petit sujet, je vais rire sur mes études. Et finalement, elle, Michelle Obama, et son frère, finit par ne pas être satisfaits avec... avoir le super boulot dans un cabinet d'avocat haut de gamme, une super voiture. Ils n'étaient pas satisfaits avec ça. Et tous les deux sont revenus à faire d'autres choses, qui aidaient la communauté, qui travaillaient sur le changement de la société, plutôt que juste sur le changement de leur statut à eux. Bon, ils ont pu faire ça parce qu'ils avaient changé leur statut à eux. Mais ça l'a aidé à voir que c'était un projet beaucoup plus grand que ça. Et je me suis dit, mais c'est un peu ce qu'on fait, nous. C'est-à-dire que, évidemment, on doit regarder ici. Bon, évidemment, c'est là où il faut commencer. Mais en fait, ce chemin sur lequel on a, qu'on appelle le chemin du Bodhisattva, c'est de, ok, on se transforme, mais c'est pas juste pour moi. C'est pour quelque chose de beaucoup plus vaste que moi, qui n'est pas autre que moi, en fait. Mais... Et qu'il y a des... qu'il y a des manifestations des gens qui incarnent ça, qui n'ont rien à voir avec le zen ou le bouddhisme, en fait. Barack Obama n'a rien à voir avec une pratique bouddhiste. Mais quelque part, il avait cette expérience aussi. Qu'est-ce que ça... Pour moi, quand j'étais là, je me vois là, dans mon lit, en train de regarder par la fenêtre, pensant à ça, contemplant ça, lisant ça et disant, tiens. Je trouve que ça donne beaucoup d'énergie. C'est pas étonnant qu'il arrivait, et il arrive toujours, Obama, de énergiser les foules. C'est électrique. Et c'est... Évidemment, c'est sa présence, c'est son rythme de parler, son diction et tout ça. Mais c'est aussi ce qu'il dit qui est autre chose. C'est un tout, hein, c'est sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de se présenter, d'accueillir des gens, etc. Mais c'est aussi ce qu'il dit. Et ça me montrait l'importance aussi de... Tout est important. Quelqu'un me disait, j'ai réussi quand même hier à faire une matinée de Skype qui n'était pas évident. Et quelqu'un me disait, ah, oh, je ne sais pas où me donner de la tête... Il y a tellement de choses, je ne sais pas ce qui est le plus important, etc. Et je lui dis, mais tout est important. Et si on a véritablement cette expérience de tout est important, on n'a pas de difficulté de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'on fait juste ce qu'il y a là à faire. Et ça nous aide à voir aussi ce... vision plus globale d'Obama, que ce qui est important, c'est pas uniquement moi et mon ascension sociale ou économique, c'est le tout qui est important, et tous les aspects du tout, le tout et chaque aspect du tout qui est important. Et aussi, je pensais beaucoup à... De temps en temps, il y a ce camp où il y a un maître qui est malade et un disciple vient et dit « Comment ça va aujourd'hui ? » Ou « Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ?» Je crois. Et ça m'est venu parce que quelqu'un m'a demandé ça. C'est mercredi où j'ai fait des Skype. Et donc c'est hier, mais quelqu'un que j'ai eu mercredi m'a envoyé un message en me disant comment ça va aujourd'hui. Et ce m'est venu, donc ce courant, disciple vient demander, et le maître dit Sun-faced Buddha, moon-faced Buddha. Et c'est. J'avais vraiment cette. Bon, je n'étais pas contente d'être malade. Surtout hier, parce qu'il fallait que j'annule un atelier d'écriture que je devais animer. Et j'étais surtout très très navrée pour les participants. Et pour mes collègues, j'avais l'impression de faillir. Mais en même temps, je n'ai pas une mauvaise souvenir de ce temps. C'était désagréable d'être malade, mais ce n'était pas désagréable d'être malade, en fait. C'était juste ce que c'était. Et si je restais avec juste ce que c'était, ça allait. Et c'est ça qui nous permet aussi de je ne sais pas si vous me suivez, j'essaie de suivre moi-même mais ma pensée, mais ça c'est ça qui nous permet aussi de accéder à cette vision plus large. Parce que si on est accroché à nos préférences et vouloir que ne pas être malade et me complaire dans cette maladie, pauvre moi, etc. Je ne vois que ça. Je suis entièrement focalisée sur ça. Et je n'ai pas de possibilité de voir Sun face Buddha, Moon face Buddha. Et toutes les autres visages imaginables. Et pas imaginable. Il y avait un slogan à un moment. Ah non, c'était Apple, je crois, qui était Think Big. Non, Think Different. C'était ça, Think Different, c'était leur slogan. Mais il y avait aussi quelque chose à un moment qui était Think Big. Mais ce n'était pas big dans le sens de Trump big. C'est plutôt big dans le sens Obama big. C'est très intéressant le contraste entre les deux. Hein. C'est vraiment Sun face Buddha, Moon face Buddha. Alors là. Et ce n'est pas facile toujours, hein, parce qu'on se fait prendre dans les facilités, d'une certaine façon, et dans les habitudes. Et on se laisse accrocher par des états d'âme ou les sentiments ou des projections, des choses comme ça. Voilà, ça c'était mon expérience de la semaine. Je suis très curieuse de savoir comment est le nom du livre Michel Obama en français. Je suis sûre que je l'ai vu parce que c'était dans tous les librairies. Mais on me l'a offert pour Noël, donc en anglais. Ce n'était pas devenir. Non, tu ne te souviens pas. Et vous?
Comment tu... qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait malade et qui n'aurait pas... qui ne serait pas dans ce que tu décrivais, mais qui voudrait ne pas être malade? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça qui, pour... pour lui permettre d'accéder à cette autre expérience.
En ce qui concerne toute situation comme ça, où on est fixé sur quelque chose et on n'arrive pas à lâcher, il s'agit d'accueillir ça. Comme avec toute expérience, donc d'accueillir, donc de recevoir ce que la personne exprime, sans jugement, sans idée qu'il faut avoir une autre pensée, ou je pense, je peux, comme c'est une situation théorique, je ne sais pas, mais exactement, ça dépend de la situation. Mais pour moi, l'essentiel, c'est juste de recevoir là où elle est, la personne. Et évidemment, ça dépend de la maladie et de la situation. Si c'est une maladie grave, si la personne est mourante, si... enfin... Tout dépend, mais ce qui ne change pas, c'est de recevoir la personne là où elle est. C'est ça.
Ça m'a fait penser un peu aussi à... donc c'était il y a la semaine dernière, quand j'ai eu... je me suis fait mal, j'étais ici, en me mettant à genoux, j'ai une douleur dans une cuisse, et je me suis presque évanoui, et j'ai mis un moment à me remettre, et ça m'arrive de m'évanouir, ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est toujours une expérience extrêmement pénible, et à chaque fois je me dis qu'est-ce que je peux faire là, quand je suis au milieu de ça, que je sens que je vais peut-être perdre conscience et que je suis au milieu de quelque chose de très très pénible, et que j'essaye de je sais pas de je vise quelque chose un peu comme ce que tu disais, de ton expérience de la maladie. J'essaye de rester là et d'accueillir toute cette expérience entière. Mais j'y arrive pas. Je peux pas ne pas vouloir. Enfin, je sais pas comment le tourner, mais. Je ne peux pas. Accepter cette expérience, quoi. Me dire. Je sais pas exactement comment. Quel mot mettre, mais. Je ne peux pas faire autrement que vouloir que. ça s'arrête et vouloir, vouloir que ce ne soit ne plus être dans cet état où, où je suis en train d'évanouir parce que c'est trop pénible. J'ai aucune idée de comment je pourrais tu vois, approcher ça.
Et c'est, l'état que tu décris, ça dure longtemps ?
Quelques minutes.
Ou ça tourne ou...
Ouais.
Ouais.
Je sais que ça dure pas, tu vois, bon, je sais que dans le fond, il n'y a qu'à attendre. Mais si j'essaye de d'être présent dans l'instant où ça se passe, c'est difficile.
Oui, il y a des situations qui sont très dures à faire, hein, à accueillir comme ça. Et ça dépend aussi qu'est-ce que c'est, ce qui se passe, etc. J'ai demandé combien de temps ça dure, parce que si c'est l'espace de quelques secondes, on n'a même pas le temps de penser. Mais il y a des choses très très désagréables, oui, je sais. Et ça ajoute à l'angoisse, ou le désir de, que ça s'arrête, ça ajoute, donc ça aggrave la... la situation. J'ai lu que la femme de Bernie Glassman dans son blog a écrit que tout le temps depuis qu'il a eu son stroke, donc ça fait, je crois qu'il a eu son stroke il y a 2 ans, son AVC, il y a 2 ans aujourd'hui d'ailleurs, ah non, son anniversaire c'est aujourd'hui là, il y a 2 ans, il y a quelques semaines je crois, bon maintenant il est mort, hein, mais et il était, c'était très débilitant, on dit, débilitant. Il ne pouvait pas sentir son, tout le côté droit, il fallait réapprendre à parler. Il marchait avec une canne, etc. Il ne sentait pas son pied droit, etc. Et il n'était plus du tout pareil. Mais elle a dit, dans ces 2 ans, il ne s'est jamais, jamais, jamais plus. Jamais. Bon, ça c'est un mec qui a 60 ans de pratique quand même. Mais c'est comme si il... C'était même pas qu'il se taisait pour ne rien dire, c'est que... Il a accueilli ce qu'il y avait. Il a fait son mieux pour... Il a fait beaucoup de physiothérapie, etc. Pour réapprendre à marcher, etc. Il savait qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire, il fallait parfois qu'il se couche parce qu'il était crevé, etc. Mais il ne s'est jamais, jamais plaint là-dessus. Et ça, c'est quelqu'un qui a eu la pratique, qui a, moment après moment, avait accueilli ce qu'il y avait, sans chercher à évader. Et certainement, il avait, à d'autres, dans d'autres situations dans sa vie, essayé d'évader. Ou que ça s'arrête, ou ça peut être de l'inspiration, sachant que c'est possible. C'est possible. C'est vrai qu'on n'arrive pas toujours. Mais même quand on a l'impression qu'on n'arrive pas, peut-être une fois quand on se rend compte qu'on n'arrive pas, un peu ça va nous allumer et on va dire, mais en fait, ça va. Ça passe. J'ai eu un moment comme ça hier. Hein. J'essayais de me lever et partir hier. La tête qui tourne, sueur froide, etc. Je laisse passer. Ouais. Il s'agit toujours d'accueillir. C'est ça, là. Ça ne veut pas dire qu'on aime ça. Mais accueillir.
Quelquefois, c'est pas évident par rapport aux autres. Je pense à Bernie, par exemple. Ce que je trouve encore plus épatant, parce que c'est qu'ils ne se plaignent pas, enfin je sais pas, mais je pense qu'ils ne se plaignent pas du dérangement qu'ils pouvaient causer aux autres. Eva qui devait certainement devoir le seconder dans plein de tâches, dans... Moi je crois que c'est ça qui me... Et je sais que c'est ça qui me... Bon, quand j'ai ces malaises vagaux ici, c'est pas tant pour moi de voir que voilà, je suis en train de partir. Bon, j'essaye de résister un peu, mais c'est pas le problème. Et à la limite, c'est pas déplaisant pour moi. Mais c'est de savoir que ça a une incidence sur les gens qui sont autour de moi, sur et ça, c'est ça m'est vraiment très difficile.
Alors ça, Bernie, il disait ça. Et d'ailleurs, une des dernières choses qu'il a dit à Eve, c'était « I'm so much trouble for you ». Parce que il avait c'était la veille de sa mort et il avait une septicémie, non, c'est ça, septicémie, oui. Et il savait pas ce que c'était, il fallait qu'elle appelle les urgences, etc. Et donc à ce moment-là, il avait dit I'm so much trouble for you. Et Eve, ce qu'elle raconte, parce qu'elle raconte tout dans son blog, elle avait dit mais non, Bernie, c'est l'amour. C'est l'amour.
C'est l'amour dans le fait qu'elle a d'accueillir sa situation à lui.
C'était pas it was not trouble for her. C'était
okay,
pas
d'accord.
C'était pas qu'elle faisait ça par amour pour lui. Bien que c'était elle a galéré pendant un an et demi avec ça. Il était très conscient de ça, et il exprimait ça. Je sais pas à quel point, à qui, dans quel contexte, etc. Il avait beaucoup de gratitude, je crois, pour tous les gens qui étaient autour de lui.
Ça m'évoque le documentaire sur Ram Dass, qui aussi avait eu un AVC, et il est à moitié en fauteuil roulant, il ne peut plus du tout bouger, etc. Et c'était très touchant, il racontait le qu'il était vraiment dans une situation où il acceptait d'être aidé et que c'était fallait parfois c'était difficile en fait, enfin s'accepter. Ça me fait penser l'année dernière quand j'étais au Great Vow Monastery où il y avait un moment à la fin de il y a cette cérémonie qui marque la fin des un an de la personne qui était en position de gérer le monastère. Et tout le monde, à un moment, il y a une séquence où tout le monde exprime sa gratitude à la personne. Et la personne ne peut rien dire. Juste accepter le truc. Après avoir donné un Dharma Talk, etc., après elle doit être là et recevoir le truc sans rien dire.
Et sans faire ça ou...
Je ne me souviens plus. Mais c'est vraiment accepter la gratitude, accepter ce que les gens nous donnent. Quoi. C'était beau quand même.
Oui, et ça ouvre tout un volet sur qu'est-ce que c'est donner, qu'est-ce que c'est recevoir. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à chaque instant que ça m'est offert? Donc, de certaine façon, cette maladie m'a été offerte. Cet virus m'a été offert. Ou le fait que mon mari devait faire la cuisine tout le temps. Normalement, moi, je fais beaucoup la cuisine. Je laissais faire. J'intervenais pas, j'ai tendance plutôt à intervenir quand il fait la cuisine. Pas d'intervention. Ce qui me servait, j'ai dit oui, c'est très bien.
Ce que tu disais par rapport à Barack Obama, c'est, je reste avec en contrepoint total, je reste un peu sidéré par un article que j'ai lu il y a 10 jours sur une écrivaine américaine que je ne connaissais pas du tout, que vous devez connaître, comment on dit, Ayn Rand.
Oui, bien sûr.
Oui, en France, on connaît.
Fountainhead, ah, aussi.
En France, j'avais jamais entendu.
Ah
non. Et qui, apparemment, aux États-Unis, c'est l'un des livres les plus lus aux États-Unis. Ça te parle pas?
Non.
Comment on dit Anne?
Ayn Rand, je crois.
Ayn Rand. En France, tu connais pas? J'en avais jamais entendu parler.
Le livre s'appelle The Fountainhead.
Oui. Ouais. Et donc, c'était tout un article sur elle, et c'était vraiment sur sa philosophie sous-jacente à ses romans, qui était un truc de qui est devenu presque le sorte de soubassement idéologique du capitalisme, et c'est vraiment le truc de très, une situation de solipsisme total où moi seul je peux tout faire, les autres ne sont que des potentiels obstacles à l'expression de ma liberté, si je veux je peux, et donc il n'y a aucune idée de contexte, de limitation par le contexte, de potentielle contrainte de la classe sociale. Enfin, il y a vraiment un truc très très fort. Et donc, quand tu disais ça, avec le, aussi, on donne et on est pris dans une communauté, et on travaille dans cette communauté, etc. Et je pensais à ce contrepoint-là total, avec aussi cette ce qui, Trump est presque une sorte de figure emblématique, cette caricature des personnages. Et d'ailleurs, Trump, l'un des rares bouquins qu'il cite, c'était ça, cette femme, Ayn Rand. Et qu'on est à la fois très inspiré par les propos de Barack, et aussi très dans ce type a quand même été élu, Trump, aussi dans ce fantasme-là. Et aussi très inspirant, mais avec des conséquences très différentes aussi. Très, très, très différente.
Absolument. C'est comme le pile et le face d'une même...
Ouais. Et d'ailleurs, dans l'article, l'article disait qu'à la fin de sa vie, Ayn Rand était... Elle était avec un homme qui était... À un moment, elle avait un amant qui était impuissant. Et ça la rendait folle, parce que ça mettait à bas complètement sa théorie aussi de... Just a question of will. And...
Ah, oui.
Et c'était horrible pour elle, parce que ça rentrait en contradiction complète. C'était une...
À se demander si son problème à lui n'était pas lié à ça.
Bah, tu m'étonnes. c'est sûr. Ça devait être un petit peu.
Oui, c'est ça.
Mais ça m'avait. Enfin voilà, je pensais à ça quand tu parlais de Barack Obama et de l'inspiration, parce que. C'est des oui, sortes de contrepoints tellement opposés et tellement...
Oui.
Ça me fait penser à tout ça. J'ai été assez, pendant un moment, fasciné par Antaiji. Vous connaissez le temple au Japon, peut-être pas d'ailleurs, qui est tenu par un Allemand qui s'appelle Muho, et ils vivent pas en autarcie, parce qu'ils reçoivent des dons, mais ils font pousser leurs légumes, ils vivent dans la montagne à quelques heures de marche, je crois, de la route, il y a peut-être une petite route qui va jusque là-bas. En hiver, ils sont sous 3 mètres de neige, et ils vivent, ils doivent avoir un poêle quelque part dans le temple. Quand il y a quelqu'un qui tombe malade en hiver, le seul moyen qui est de faire venir un médecin, c'est l'hélicoptère. Donc soit on reste malade si on n'a pas les sous pour faire venir un hélicoptère, ou il y a un truc très très dur comme ça dans ce que j'ai lu, en tout cas le site Mo, il a écrit plein de choses, et très 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 dur. Et ça me fait un peu penser à ce quand tu disais, cette idée que je peux tout faire, Ce temple m'a longtemps fasciné. Je pense que j'ai pas mal vu un truc comme rester avec, cette pratique de rester avec ce qui est là. Si on pousse un peu à l'extrême, ça fait ça donne l'idée de devenir un peu tout puissant, justement, un peu super héros, quoi. Et je pense que moi j'ai un peu eu cette impression là quand j'étais aux États-Unis et que j'ai fait cette retraite où on restait assis 14 heures par jour. J'ai eu vraiment, je pense, à un moment cette impression là de en fait je peux rester avec tout, ou en me disant en fait je peux juste rester avec l'instant tel qu'il est. J'ai eu cette impression là, je me suis dit mais en fait j'ai aucune limite. Enfin, je savais que j'avais des limites, mais j'ai eu vraiment cette impression d'être surhumain. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle pas tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'est souvent ce qui se passe quand on commence à parler à les choses telles qu'elles sont parfaites, rester avec ce qui est, etc. Tout de suite, on pense à ça. Et le problème, c'est que on va rester dans cette perfection de l'absolu, ou le vide, ou l'unité, etc. Et on va pas voir les différences. Ça dépend des circonstances. On va pas voir les formes. On va pas voir on va pas discerner quand est-ce que c'est approprié de faire ceci ou cela. On va juste dire bah tout est bon. Et ça, donc on devient totalitaire effectivement dans cette situation-là. Enfin totalitaire, quand ça prend une forme totalitaire, c'est que tout doit être pareil. Donc tout ce qui est pas, qui correspond pas à notre qui n'a pas la couleur du peau, ou la religion, ou l'aspect sexuel ou social qu'on veut, c'est éliminé. Parce que tout doit être lisse. On ne voit pas les différences. Et on n'apprécie pas les différences. On voit ça avec le capitalisme mondial. Quoi. C'est que on a KFC à Quito et à Chicago et à Paris et dans les petits bleds on a McDo partout, tout le monde a les mêmes fringues, on respecte pas les différentes cultures, les différentes façons de faire, et c'est les problèmes qu'on a en Europe aujourd'hui aussi avec l'Europe qui a une géniale idée. Géniale idée, pas géniale idée. Ouais. Mais de ne pas voir les individualités et de les respecter. D'une certaine façon, c'était pas mal quand chacun avait son propre monnaie. Parce qu'il y avait vraiment des cultures, je sais que faut pas dire ça à Stéphane, mais chacun avait sa monnaie, il y avait les Deutschmarks, il y avait les florins, il y a toujours le sterling en Angleterre, il y avait des francs, il y avait des pesos, il y avait des je me souviens même plus ce qu'il y avait, mais et c'est vrai, c'est on bascule dans un extrême ou l'autre. Alors, je peux, bon, c'est un exemple d'être malade cette semaine, j'acceptais parfaitement d'être malade, mais je faisais ce que je pouvais pour ne plus être malade. Je savais que si je restais au lit, si je ne sortais pas, si je buvais beaucoup de liquide, si je dormais beaucoup, si je mangeais telle ou telle chose, si je prenais des tisanes avec du gingembre, du cannelle, etc. Je savais que ça allait aider. Tout en étant juste comme j'étais. Est-ce que...
Il est 25.
D'autres choses ?
Ce que je trouve le plus dur dans ce qu'on rencontre là par rapport à la maladie, c'est de prendre les... Pas avec tout le monde, mais pour mes proches en particulier, c'est d'accepter de les prendre là où ils sont. C'est-à-dire de ne pas essayer de donner des conseils. Non, ça, je ne prive absolument pas. Et d'accepter que... Pour certaines personnes, la douleur va être complètement envahissante et déprimante et pas juste acceptée. Et du coup, ça, c'est plus facile. et c'est dur de pas d'accueillir ça. Donc, je sens très dur d'accueillir.
Oui, c'est dur. Parce que ça nous confronte avec nos propres souffrances mm-hmm. et nos propres rapports avec la douleur et la souffrance. Et... C'est vrai. Hein.
Ça, mais aussi de savoir que, pour l'avoir expérimenté peut-être, que ça peut être autrement. Qu'on n'a pas besoin de s'infliger ça.
Oui, c'est vrai. Et chacun a sa façon et son chemin. Oui, c'est vrai. Bon.